Salut et bienvenue dans Les Belles Découvertes, le podcast de l'EM Normandie qui vulgarise la recherche. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathilde Aubry, professeure en économie à l'EM Normandie, titulaire de la chaire Digitalisation et Innovation dans les organisations et les territoires. Tu t'intéresses depuis longtemps au sujet des semi-conducteurs. Il me semble même que tu l'as soutenue lors de ta thèse en 2012. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse aller un petit peu plus loin, qu'on comprenne un peu les enjeux qui se dressent face à nous. On sait qu'il y a une pénurie actuellement. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Donc Mathilde, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les conséquences de cette pénurie de semi-conducteurs et nous expliquer concrètement comment on en est arrivé là aujourd'hui ?
Pour essayer de comprendre la pénurie d'aujourd'hui, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le secteur des semi-conducteurs. C'est un secteur qui nécessite des investissements très lourds, à la fois pour faire de la recherche et développement, pour continuer à innover, mais aussi pour produire. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises, et même beaucoup de régions du monde finalement, ont fait le choix de se concentrer majoritairement soit sur la recherche et développement, soit sur la production. Et aujourd'hui, il s'avère que la production se fait majoritairement en Asie du Sud-Est et très peu en Europe. L'Europe, elle, fait plutôt de l'innovation, de la conception de semi-conducteurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé à un moment dans une phase haute du cycle. Le secteur des semi-conducteurs, c'était le sujet de ma thèse, est un secteur qui est très cyclique, pour lequel à un moment on va avoir beaucoup de ventes, une demande qui est très très forte et potentiellement des capacités de production qui ne sont pas suffisantes. Et puis juste après, on va avoir une phase où on va avoir plutôt une demande qui va être plus faible et des capacités de production trop importantes. Là, on s'est retrouvé dans une phase où on avait des capacités de production pas assez importantes. On a ajouté là-dessus une grosse contrainte qu'on a tous connue, le confinement, avec forcément l'Asie qui a été touchée en priorité, donc une baisse dans l'offre, et puis une demande qui a complètement explosé. Il faut avoir conscience que les semi-conducteurs, on va les retrouver partout, on va les retrouver dans nos ordinateurs, dans nos téléphones, dans nos jeux vidéo. Et donc, quand on a commencé à en consommer plus, et cela mondialement, ça a pesé encore sur la demande.
C'est la question que j'allais te poser. Il y a des industries qui sont plus touchées que d'autres depuis le début de cette crise ?
Alors, il y a des industries qui communiquent beaucoup plus sur les contraintes auxquelles elles ont été confrontées. Ouais. Si on a beaucoup entendu parler de la crise des semi-conducteurs, c'est notamment parce que le secteur de l'automobile a mis ça en avant. Mmh. Le secteur de l'automobile s'est retrouvé à un moment extrêmement contraint, obligé de fermer des usines de production parce qu'ils n'avaient plus accès aux semi-conducteurs.
Ça, c'est même vrai près de chez nous. Je crois qu'il y a des usines à Rennes ou à Sochaux qui ont
exactement
dû fermer.
En Seine-Maritime, juste à côté de l'école, il y a le Renault Sandouville qui s'est retrouvé à devoir fermer par manque d'accès aux semi-conducteurs. L'automobile, c'est un secteur qui a beaucoup plus de facilité à communiquer sur ses difficultés que d'autres secteurs. Avant eux, d'autres secteurs ont été confrontés à la pénurie de semi-conducteurs. Mais finalement, c'était des secteurs qui étaient beaucoup plus habitués à ces situations. Je vous l'ai dit, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a ces cycles dans le secteur des semi-conducteurs. Apple avait déjà, bien avant que l'on commence à parler dans les grands médias de la pénurie, dû retarder la sortie de son iPhone à cause de cette pénurie et de difficultés d'accès. On a eu du secteur des jeux, notamment, qui avaient commencé à communiquer aussi sur le fait qu'ils étaient en difficulté.
Tu penses à la PS5 ?
Exactement, exactement, qui se sont retrouvés à devoir aussi décaler avec des craintes d'accès au marché. Et puis finalement, on a aussi des secteurs aujourd'hui qui ne font pas beaucoup parler d'eux, mais qui sont en grande difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à se procurer des semi-conducteurs. On a tous les secteurs d'entreprises qui innovent dans la e-santé, par exemple, qui sont fort consommatrices de semi-conducteurs aussi, qui en ont besoin non seulement pour produire, mais aussi pour faire leurs tests, pour innover, pour construire leurs prototypes.
Alors, quelles sont les solutions possibles à tout ça ? On parle de renationalisation de la production. L'Union européenne a justement de grandes ambitions. Quelles sont les perspectives un petit peu pour les prochaines années, pour la production en tout cas ?
Alors là, on voit bien que tout le monde entier a pris conscience qu'il fallait produire plus de semi-conducteurs parce que la demande était plus importante. On parle de pervasion du secteur des semi-conducteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tous les objets qui en contiennent déjà, il y en a de plus en plus. Et que dans des objets dans lesquels il n'y avait pas de semi-conducteurs avant, l'automobile par exemple, on se met à en avoir. Donc forcément, la demande s'accroît. Ce qui fait que les endroits du monde qui produisaient déjà, je pense aux États-Unis, je pense à Taïwan, ont décidé d'accroître leur capacité de production. L'Europe a fait la même chose. Le risque, c'est que l'Europe a un peu plus de retard et qu'on arrive à un moment, à nouveau, je l'ai dit, c'est des cycles où on arrive à un moment où peut-être qu'on va être en bas de cycle. Donc, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté européenne de se repositionner dans le secteur des semi-conducteurs, d'innover plus fort, de soutenir les entreprises qui font du semi-conducteur en Europe et aussi d'avoir une partie de la production en Europe. On va voir un peu ce que ça donne, parce que tout ça, c'est des décisions qui nécessitent une réflexion de long terme. Il y aura deux questions à se poser. Est-ce que ce sera des entreprises européennes qui produiront en Europe ou est-ce que ce sera des entreprises étrangères qui viendront positionner leur production en Europe et quelles seront les conséquences à partir de là? Et puis la deuxième chose, qu'est-ce qu'on va produire? On parle des semi-conducteurs en général, mais finalement, s'il y a une grande diversité de produits quand on parle de semi-conducteurs, est-ce qu'on va plutôt produire des produits de dernière génération ou des produits finalement qu'on utilise plus en Europe, qui sont des produits un peu plus anciens? Pour l'automobile, par exemple, ce n'est pas des produits de nouvelle génération.
Quels sont, toi, tes recos? Est-ce que c'est une bonne idée de renationaliser à l'échelle européenne la production avec des acteurs européens? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, je sais qu'Intel a prévu de construire une usine en Europe, est-ce qu'il faut faire venir des acteurs, comme tu le disais, soit asiatiques, soit américains?
Il faut que ça soit réfléchi dans un niveau global. Ce qui est certain, c'est qu'en Europe, on a besoin de redynamiser les écosystèmes dans le semi-conducteur. On a des choses qui sont faites, on a des entreprises qui innovent à partir de ce qui est fait aussi sur les semi-conducteurs. Et il y avait véritablement un besoin d'un soutien financier pour ça. Pourquoi? Parce que finalement, que ce soit les États-Unis ou que ce soit Taïwan, par exemple, ou tout autre pays qui arrive à avoir une vraie puissance dans le secteur, c'est des pays qui ont accepté d'investir lourdement. Ouais. C'est un secteur qui a besoin d'investissement public, très clairement. Donc déjà, de base, faire un investissement, proposer, montrer qu'on soutient le secteur, en parler, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on ne savait pas quasiment ce que c'était que ce secteur et ce qu'étaient les semi-conducteurs, alors qu'ils font partie de notre quotidien. C'est déjà beaucoup, parce que ça permet une prise de conscience et ça va faire s'installer un écosystème. Donc ça, c'est ce qui est central. Après, pour moi, une recommandation plus à l'échelle des entreprises, c'est de réaliser, quand on est une entreprise utilisatrice, qu'on est complètement dépendant aujourd'hui de ce secteur-là, donc de s'en rapprocher. C'est un secteur qui a été déverticalisé. C'est-à-dire, avant, les entreprises de semi-conducteurs, elles étaient en interne des entreprises utilisatrices. À Caen, on a NXP, ils étaient en interne de chez Philips. Donc ça s'est séparé. Aujourd'hui, il va peut-être falloir se re-rapprocher. Pas sous le même format, parce que les raisons pour lesquelles il y a eu cette déverticalisation existent toujours, mais sous un format différent.
C'est ce que tu appelles justement la restructuration du secteur ?
C'est ce que j'appelle la restructuration du secteur. Okay. C'est de repenser un petit peu, de réfléchir d'un point de vue vertical. L'innovation, de toute façon, dans le secteur, on ne peut pas le faire seul. Il y a forcément de la coopération qui est faite. Donc, de réfléchir aussi à des formats de coopération et de la coopération, ce qu'on appelle verticale. On l'a vu, par exemple, avec Renault qui s'est rapproché d'ST Microelectronics. Ouais. Où on voit des choses de ce point de vue-là qui se font et qui sont intéressantes à suivre.
Question bête peut-être, est-ce qu'on aura toujours besoin de semi-conducteurs? Et un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que l'Union européenne ne va pas arriver, encore une fois, trop tard?
Alors, trop tard en termes de production, y aura une attention à faire, à ne pas construire des usines qui risquent... Parce que le problème dans le semi-conducteur, c'est qu'en plus, ça devient rapidement obsolète. On ne peut pas attendre le retour du cycle. Ouais. Donc ça, il faudra faire effectivement attention de ce point de vue-là. La question de toujours besoin de semi-conducteurs, elle est intéressante parce que... La production de semi-conducteurs, un semi-conducteur, c'est un bien intermédiaire. Donc, pour en produire, il nous faut aussi des matières premières qu'on appelle les terres rares. Il y a toute une réflexion aussi autour de l'accès à ces terres rares pour continuer à pouvoir produire par rapport à ça. Et donc, il va y avoir une réflexion qui va être nécessaire aussi sur la réutilisation des semi-conducteurs. On a tous jeté, évacué des produits électroniques qu'on n'utilisait plus, alors que forcément des semi-conducteurs seraient utiles là-dessus. Okay. Et puis sur peut-être l'utilisation d'autres types de matières premières.
Une dernière question sur un parallèle avec ce qui s'est passé à Xi'an, une grande ville chinoise, il y a quelques temps, début janvier. Il y a eu un confinement des 13 millions d'habitants de cette ville, qui était d'ailleurs au passage la capitale de la Chine pendant de longues années. Très très grosse ville. Et dans cette ville, Samsung fabrique, je crois, de mémoire 40% de sa production de mémoire vive et de mémoire flash. Est-ce que pour toi, ces types de composants, qui ne sont pas des semi-conducteurs, mais qui sont des composants électroniques, enfin dis-moi si je me trompe, peuvent connaître le même sort et peuvent connaître une pénurie comme l'ont connu les semi-conducteurs il y a quelques mois?
De toute façon, et on l'a tous entendu dans l'actualité, les pénuries, ça ne concerne pas simplement les semi-conducteurs, ça concerne beaucoup de matières premières de toute façon au global. Effectivement, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Toutes ces pénuries-là, finalement, nous rappellent quelque chose qui est important, c'est que notre industrie, contrairement à ce qu'on avait pensé à un moment, est en fait très liée à son territoire. Réfléchir au positionnement, au lieu de production, ou même de recherche, c'est quelque chose d'important. À la fois parce que ça dynamise un écosystème global, et puis parce qu'on dépend, aujourd'hui, l'actualité nous le rappelle, de contraintes qui vont être liées à la physicalité finalement de ce territoire, des contraintes liées au climat, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant de ce point de vue-là, et sur lequel il faudra être vigilant par la suite.
Merci Mathilde, merci beaucoup pour ton éclairage et merci à vous d'avoir écouté notre podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Belles Découvertes.